Sans plus tarder, donc, je vous présente notre conférencier pour aujourd'hui, Ludovic Chevalier. Ludovic fait présentement sa thèse de doctorat en philosophie sous la direction de Catherine Colliot-Thélen de l'Université de Rennes et de Daniel Weinstock, ici à l'Université de Montréal. Son titre, Le contractualisme international, défis, portées et limites d'un cadre théorique. J'ai regardé, et c'est intéressant à propos de Ludovic, il possède sa qualification niveau 3 de plongée sous-marine. Donc, vous pourrez en parler avec lui par la suite, ça m'intéresse. Je ne vais pas prendre plus de temps, donc je laisse Ludovic présenter sa conférence.
Merci Nicolas pour cette introduction. Oui, il y aura peut-être un lien avec la plongée sous-marine, en tout cas la biologie et le niveau... écologique dans ma présentation. Je présente ici, alors devant vous, donc un ensemble de réflexions issues de mon travail de thèse, dont le titre est celui annoncé pour la communication d'aujourd'hui, qui vient de rappeler Nicolas, le contractualisme international, défis, portées et limites d'un cadre théorique. Alors, je voudrais tout d'abord commencer par remercier très chaleureusement Maya Cacheco et Louis-Philippe Blanchette pour leur invitation à participer à ce séminaire. Je voudrais remercier tout particulièrement aussi Jean-Luc Chevalier pour l'attention et le vif intérêt qu'il porte à mon travail. Bruno Dubreuil de l'Université libre de Bruxelles et rattaché au CERIUM, Dave Vantil, Martin Blanchard et Xavier Land de l'Université de Montréal, Patrick Turmel, enfin, de l'Université de Toronto, ont amicalement contribué par nos échanges et discussions à enrichir ma réflexion. Je leur en suis reconnaissant. Et je remercie enfin le CETUM, Centre d'études techniques des universités montréalaises, pour son précieux soutien. Je vais commencer. Le contractualisme représente un courant de la réflexion morale et politique qui place au premier plan l'idée d'un accord entre individus dans la perspective d'une explication et d'une justification. La réflexion porte sur les fondements du politique. Elle se donne pour seuls éléments les individus. Il s'agit, historiquement, si l'on remonte aux sources du contractualisme, de rendre compte de l'institution de l'État et de le légitimer en excluant toute transcendance. Dans cette ligne de pensée, l'État repose sur un pacte ou contrat social qui définit les termes d'une coopération. Cette coopération vise l'avantage mutuel. Les approches sont diverses dans les théories contractualistes contemporaines, selon les auteurs de référence, Kant ou Hobbes par exemple, selon la manière dont sont précisées les conditions initiales du contrat, et ce que Hume a appelé les circonstances de la justice, c'est-à-dire les circonstances qui rendent la justice à la fois possible et nécessaire, ou encore selon les présupposés théoriques et les outils conceptuels que l'on se donne. Historiquement, la problématique contractualiste est apparue avec la remise en question du règne de droit divin. Chacun étant réputé posséder des droits égaux, naturels, il devient inacceptable que certains individus dans la société jouissent de droits qui seraient inaccessibles aux autres. L'obligation politique est à expliquer en d'autres termes que ceux traditionnelle de la soumission hiérarchique, par exemple. Les individus concluent entre eux une entente, enfin une convention, qui fixe les modalités du vivre ensemble. Ils s'engagent réciproquement, à satisfaire aux conditions de cette entente. Cet engagement est celui du contrat. Il est non pas historique, mais symbolique. Tout se passe au plan de la fondation rationnelle. Il s'agit d'expliquer et de justifier le politique, de le construire et de le légitimer de telle manière que chacun puisse y adhérer. Ce contrat. Alors le contrat originel est premier au sens où il sert de principe directeur de la vie en commun et règle tous les accords ultérieurs. La thèse est nettement exprimée par Rousseau, qui écrit dans Du contrat social 1-6, c'est l'objet du chapitre, qu'il faut toujours remonter à une première convention. Il pose la distinction entre agrégation et association. La problématique contractualiste a été éclipsée au XIXe et XXe siècle par des modèles tels que le modèle marxiste et les modèles organicistes de la société. Elle a connu un regain d'intérêt et de vitalité suite à la parution en 1971 du magistral ouvrage de John Rawls, The Theory of Justice, dont l'objectif est de présenter une conception de la justice qui généralise et porte à un plus haut niveau d'abstraction la théorie bien connue, dit-il, du contrat social. C'est écrit au tout début. La littérature est abondante et le débat se poursuit selon des lignes diversifiées d'exploitation possibles, notamment sur le plan international, où il y a à la fois ordre et absence d'ordre, convention et anarchie. Rawls a été amené à se prononcer sur la question des principes de justice et de leur portée, ce qui a donné lieu à la publication d'un texte bien connu, Le droit des peuples, The Law of Peoples, donc, en deux versions, celle de 1993 et celle de 1996. Une deuxième figure emblématique du contractualisme contemporain est David Gautier, auteur d'un ouvrage non moins magistral publié en 1986, Moral Die Agreement. Alors, je le dis en anglais avec mon accent français, mais c'est pour insister sur la nature du projet que le titre original met bien en évidence, explicite, alors que le titre choisi pour sa traduction en français, Moral et Contrat, atténue ce projet. La question que nous posons dans cette communication est la suivante. Qu'est-ce que le contractualisme, sur le plan heuristique, nous apprend sur notre intérêt bien compris au niveau international, notamment par rapport à l'environnement? Notre propos se déroulera en deux temps. Dans un premier temps, nous accorderons une large place aux considérations empiriques, soumettrons un certain nombre de difficultés, mais aussi des raisons d'être optimistes, des raisons d'espérer. Dans un deuxième temps, c'est-à-dire après le premier, nous aborderons donc des considérations plus nettement théoriques et nous interrogerons les ressources, les potentialités du contractualisme face aux défis soulevés par la mondialisation. Nous terminerons enfin par quelques propositions normatives, celles-ci ne se dividant pas en première considération mais des secondes. Qu'est-ce qui rend possible et nécessaire un contrat social sur le plan international ? C'est la présence de différents et la perspective d'un intérêt commun. Il y a des différends, des conflits, des guerres, au sujet des territoires et des partage des ressources, pour ne citer que deux causes d'ordre général, le rôle de la justice et de les arbitrer. Celle-ci peut être coopérante avec l'accord des États entre eux, ou alors elle est imposée de force, mais c'est cet accord qu'il reste à établir. Et cet intérêt commun qu'il reste à trouver. L'ONU, comme la SDN, la Société des Nations après la Seconde Guerre mondiale, se veut un équivalent de gouvernement démocratique mondial, avec comme unité de base la nation, officiellement représentée dans cette instance, et un directoire, le Conseil de sécurité, fondé sur une préoccupation principale, le règlement des conflits majeurs entre pays, de manière à ce que ces conflits ne dégénèrent pas à nouveau vers une guerre mondiale avec le paramètre nucléaire tout spécialement aggravé. Mais actuellement, l'ONU ne dispose d'aucun pouvoir exécutif. Et l'équilibrage entre les grandes puissances s'opère selon des aires d'influence. Il s'agit d'une démocratie législative élaborant des points d'accord, des normes acceptables par tous, des propositions mesurées, souhaitables, avec le principe une nation, une voix, chaque pays composant le Conseil de sécurité ayant quelques pouvoirs, le droit de veto par exemple, de régulation, expression et maintien des équilibres entre les grandes puissances autour des unions. On assiste aujourd'hui à des accords locaux limités, thématiques, développement récent à l'échelle du XXe siècle finissant, entre les nations les plus concernées par telle et telle question vitale. Ce n'est pas pour rien que des accords interviennent, mais c'est toujours sous l'empire, de contraintes majeures. Citons quelques exemples. L'accord de limitation du développement des armes nucléaires, sortir du plus fort de la guerre froide. Le contrôle de la prolifération des armes de destruction massive, nucléaire, chimique, biologique. L'arrêt de la production des CFC, chlorofluorocarbures, un unique produit en cause, une quinzaine de pays producteurs seulement, une certitude scientifique démontrée de manière convaincante en quelques années. Les problèmes de finances internationales encore, le FMI, dont les principes d'action font débat ces dernières années, l'organisation du commerce au niveau mondial, l'OMC, actuellement en crise, l'UNESCO pour les questions culturelles et de patrimoine, l'OMS pour les questions de santé et d'épidémiologie, etc. On le voit, les thématiques sont légion. De nombreuses sont ou seront cruciales pour l'humanité. La disparition d'espèces animales et végétales, par exemple, et donc de la diversité biologique. Alors on sait que chaque espèce ne vit tellement qu'en rapport avec d'autres espèces relevant de tous les règnes, avec un milieu biologique lui-même très différencié et susceptible d'évolution, dont un paramètre majeur est cette diversité. La question des ressources minières et énergétiques, pétrole, gaz, métaux, la question des biotopes, forêts tropicales et équatoriales, par exemple, qui risquent de recevoir le coup de grâce du fait du succès d'estime tout récent des gazoles d'origine végétale, les plantations d'EVA pour leur huile et non plus pour le caoutchouc en place de la forêt primaire, par exemple en Indonésie. Celle de l'eau, la Terre dispose de la même eau depuis des dizaines de millions d'années, c'est-à-dire qu'on utilise strictement les mêmes molécules d'eau que les dinosaures de l'ère secondaire. Or, l'eau non polluée, renouvelée, accessible, devient rare dans de nombreuses régions du globe. Bien d'autres exemples pourraient être évoqués, la liste n'est pas close. Cette énumération signifie que le champ est vaste et fonds prometteurs. Ce ne sont pas les raisons accordées qui manqueront, mais il faut noter que collectivement, nous n'avons pas le droit à l'erreur sur aucune de ces questions. Nous n'avons pas le droit à l'erreur parce que l'enjeu est majeur. Les contraintes vitales peuvent opérer si elles sont perçues, mesurées, comme elles ont dû opérer finalement dans la représentation qu'a pu se faire un Rousseau de ce qui a amené à la formulation du contrat social. Dans le second discours, le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. Si ce n'est que dans le cas présent, l'obstacle n'est pas inhérent au rapport entre les hommes, mais représenté par une menace extérieure, une modification des conditions d'une inégalité engendrée par l'humanité elle-même jusqu'à un seuil qui risque bien de devenir critique. Les contraintes vitales évoquées ici intéressent au moins l'ensemble de l'humanité. La position de départ en vue d'une entente pourrait être une position de négociation réelle tenant compte des problèmes actuels qui s'amplifieront dans l'avenir et un avenir pas si lointain, doit inclure la donne historique, c'est-à-dire celle de l'état actuel du monde. L'information devrait convaincre. Les problèmes sont tangents. Par exemple, pour ce qui concerne les changements climatiques, les faits sont marquants. Quand bien même la relation de cause à effet entre les activités de l'homme et les dégradations observées n'est pas établie d'une manière qui ait convaincu toutes les parties prenantes. Les derniers événements météorologiques, canicules, tempêtes, inondations, peuvent être considérés comme tributaires d'un malheureux concours de facteurs sans nécessairement qu'ils suivent une tendance dont on devrait s'inquiéter. Leur apparition serait contingente, accidentelle, bref, ponctuelle. Seulement, cette ponctuation est répétée. Prendre au sérieux l'état du monde et de la Terre est donc une nécessité. Prendre une image, sous le poids et le mouvement de personnages en lutte représentés par Francisco Goya dans l'un de ses tableaux, duel au bâton, le sol se dérobe, mais il ne s'en occupe pas. Notre situation est similaire. Si l'on fait passer les enjeux locaux avant l'enjeu global qui nous concerne tous, on omet de s'assurer que le sol en dessous de nous est stable, ici plutôt le climat, l'environnement et l'atmosphère, or il ne l'est pas. Le contractualisme international doit prendre en compte l'environnement, une thématique inattendue chez Hobbes et Rousseau, qui peut être prise en compte dans le cadre, pour Hobbes par exemple, des préoccupations générales concernant la sécurité qui sont à régler en premier. Cependant, une objection est la suivante, c'est une objection importante. Prendre la mesure de ces problèmes planétaires et tâcher d'y remédier n'apportera-t-il pas des privations? Du côté même des pays non occidentaux, comment cela se traduit-il? Les inégalités sont en train de se combler, puisque certains pays pauvres ou en décalage par rapport aux pays occidentaux rattrapent actuellement leur retard, un retard du point de vue des critères occidentaux. Ils sont en émergence et deviennent des puissances économiques. C'est un progrès. De nouvelles compétitions apparaissent, permettent au jeu du marché de s'étendre. Elles créent cependant aussi de nouvelles interdépendances. Il serait injuste d'interdire, en vertu de préoccupations qui peuvent leur apparaître secondaires, un développement à ces pays, un développement dont les pays occidentaux ont amplement bénéficié. Il est devenu possible en Chine ou en Inde, par exemple, de s'équiper de voitures et de logements. Alors le souci à l'égard de l'environnement serait ici un luxe. Mais si l'on rejoint un niveau d'analyse plus global, il ne l'est pas, puisqu'il s'agit aussi de notre milieu de vie, et il n'y en a qu'un seul, aucune autre planète ne pourra servir de refuge. L'hypothèse Gaïa, celle de la Terre vue comme un grand organisme vivant, émise, formulée par James Lovelock en 1969, permet à sa manière d'attirer l'attention sur ce point. Prendre pour objet l'environnement implique d'intégrer un facteur aussi temporel qui nous amène à dépasser les préoccupations des générations actuelles pour se tourner vers celles que connaîtront les générations à venir, afin de leur épargner un futur impossible. Qu'est-ce qui rend cette exigence plus légitime qu'une autre? Pourquoi ne pas concentrer les efforts plutôt sur la question d'une répartition juste des ressources existantes entre les États existants pour permettre aux individus d'aujourd'hui d'en bénéficier? Cet avenir, évoqué à l'instant, nous commençons à en voir les contours. Ce qui apparaissait lointain, l'épuisement des ressources, l'accumulation des effets négatifs des activités humaines sur l'environnement, ne l'est plus. Les climatologues précisent leurs modèles et les ajustent en fonction de données nouvelles, affinent peu à peu les scénarios possibles et nous avertissent de l'imminence du danger. Décider pour le futur, faire acte de responsabilité ou répond à un principe de responsabilité, pour reprendre Hans Jonas, mais répond surtout, encore une fois, à un impératif de survie qui nous concerne maintenant directement. À moins de contester la légitimité de cette finalité, on ne peut faire autrement. Les événements se déroulant en ce siècle auquel l'humanité pouvait penser échapper, laissant aux générations futures le soin de s'y être adapté, se conduiront, selon les plus récentes estimations, non pas dans un siècle ou deux, mais d'ici quelques décennies. La fonte des glaces au pôle, dont la vitesse s'accroît du fait d'une inertie qui n'était pas prévue, ouvrira certes de nouveaux passages à la navigation, les marchands et les stratèges se réjouissent, mais aura pour conséquence par ailleurs entre autres une élévation du niveau des mers entraînant la disparition d'îles aujourd'hui habitées, celles d'espèces animales d'ores et déjà menacées. En premier lieu, l'ours blanc. Quelle importance aura le fait de répartir équitablement les ressources si les conditions de la vie sur Terre, l'existence d'une couche d'ozone, un air respirable, un climat stable, se dégradent au point de la rendre impossible? Penser à court terme amène à des résultats désastreux, tels que la désertification de zones auparavant luxuriantes, qui, en Amazonie, de terres cultivables pendant quelques années après le déboisement ou le défrichage par le feu, deviennent arides à cause du lessivage des sols. Il n'y a plus de racines pour retenir l'eau qui emporte avec elle les éléments nutritifs. C'est pourtant la survie qui amène le paysan brésilien à rendre cultivables des terres, quand bien même la perspective d'une exploitation fructueuse ne se dessine qu'à court terme. Et ces terres nouvelles sont farouchement défendues. Sociétés multinationales, l'autre facette de cette même réalité, s'installent avec des moyens considérables sur des milliers d'hectares pour élever du bétail. Il n'y a là aucune équité, au contraire, un néo-esclavagisme est même pratiqué dans ces zones de non-droit. Prendre pour objet l'environnement, c'est aussi prendre en considération des êtres, les êtres vivants dans leur ensemble, non seulement l'humanité, mais aussi les animaux et, à la limite, le règne végétal. En disant cela, n'allons-nous pas trop loin? Jusqu'où peut porter l'analyse sans diminuer la notion de communauté d'un point de vue politique? D'un point de vue éthique, certains, les partisans de l'éthique environnementale, dont Aldo Leopold est le plus grand représentant, le plus célèbre représentant, parlent de communauté biotique. Dans cette perspective, on considère les êtres vivants, hommes et animaux, comme un tout presque organiquement solidaire avec les différents milieux qu'ils habitent, différents milieux naturels. On délaisse l'anthropocentrisme, hérité des Lumières, et selon lequel l'homme détient une valeur infinie, une dignité, un statut moral, pour élargir la classe des êtres et organismes susceptibles de considération morale. Les interactions et interdépendances sont en effet nombreuses. Sans aller jusqu'à cette hypothèse, en demeurant dans le politique défini strictement comme un espace public de délibération et de discussion qui élabore les normes et règles du vivre ensemble, sous l'autorité des lois, on remarquera que la place est faite peu à peu à d'autres sujets. Le droit des enfants, l'interdiction de la cruauté envers les animaux, les mesures de préservation de zones protégées, naturelles ou non, le marché des polluants, autant d'exemples d'ouverture à d'autres ordres de réalité qui partagent avec l'homme l'usage de la planète. Aussi bien les contrats, de fait, ne prennent pas seulement en compte les individus, mais aussi l'environnement dans certains cas. Si Rawls exclut cette perspective en tant qu'elle dépasse les limites d'une théorie de la justice, ce qui fait dire à certains que le contractualisme échoue à être écologique, madame citée par Werner de Schalitz, si Gauthier n'en tient pas le grand compte non plus, cela ne signifie pas pour autant que la perspective soit définitivement exclue. En particulier, s'il est dans l'intérêt des individus d'intégrer la zone environnementale à leurs préoccupations. Nous y reviendrons. La réponse aux problèmes que nous connaissons aujourd'hui dans le monde ne peut être que politique. Cette réponse est possible dans la mesure où les problèmes, si divers soient-ils, pauvreté, famine, santé, appauvrissement des richesses naturelles de par leur destruction, prévention du recours à l'arme nucléaire, sont liés les uns aux autres. Le problème à affronter sera en dernière analyse celui de la viabilité de la planète Terre. Le scénario pessimiste et catastrophique peut être évité si l'humanité s'entend sur des lois et des règles contraignantes mais nécessaires. Deux dimensions sont à prendre en compte et à conjuguer, l'urgence et le long terme, ou l'urgence sur le long terme. L'un des problèmes qui se pose est celui de la continuité. Prendre des mesures et les faire accepter est une chose, et les assurer dans la continuité en est une autre. Nous pouvons le voir en théorie, nous verrons, nous le voyons dans notre actualité en ce qui concerne le protocole de Kyoto sur les changements climatiques. L'engagement d'une partie prenante peut à tout moment être révisé et les objectifs abandonnés, aucune obligation ne pèse. Le dernier bilan en septembre 2007, c'est un autre protocole plus modeste que lié au premier, celui de Montréal, signé en 1987, concernant spécifiquement la réduction des émissions de CFC, est toutefois encourageant et devrait servir d'exemple en matière d'entente concernant la lutte contre les changements climatiques. Le contractualisme contemporain, notamment celui de Gauthier, considère sérieusement le problème de la motivation. C'est même explicitement pour tenter de convaincre le sceptique, qui demande pourquoi respecter les obligations, que Gauthier élabore sa théorie. Le sceptique, c'est par exemple Glaucon, interlocuteur de Socrate dans la République 1 de Platon, ou encore l'homme indépendant chez Rousseau, qui élève cette objection. Il ne s'agit pas de m'apprendre ce que c'est que justice, celui-ci, il s'agit de me montrer quel intérêt j'ai d'être juste. Ceci nous amène à la partie théorique annoncée au début. La problématique contractualiste est celle de la fondation du politique à partir des individus, celle du dépassement de l'état de nature, état caractérisé par l'absence de loi positive, l'absence d'institutions juridiques permettant de réguler et de régler les rapports humains. C'est en cela qu'elle a une pertinence au niveau international. Il s'agit de dépasser un état de nature au niveau mondial, où les états sont comme les individus dans le premier état de nature, les uns à côté des autres, non liés par des règles d'institution. Avant même la paix, avant même le partage équitable des ressources, il est nécessaire de penser à l'assurance de demeurer sur une terre viable. La survie devient l'impératif, non pas la survie des uns contre tous, comme dans l'état de guerre, mais la survie des uns avec tous, contre le destin climatique qui menace d'évidence. Par-delà les divergences de conception du monde, par-delà le pluralisme et l'hétérogénéité des croyances et cultures, cet intérêt est commun. Il peut, il doit être pris en charge par le politique. Le politique, c'est-à-dire les États, acteurs et parties prenantes du contrat. Dans une telle perspective, le destin de l'île de Pâques, peu avant sa découverte, pardon, par le capitaine Cook, représentera aussi le nôtre, et la séquence se répétera au niveau du globe et de l'humanité qu'il porte. Surpopulation, appauvrissement, guerre intestine, destruction complète du milieu écologique, puis d'arbres, quasi-disparition de nos populations. La circonstance climatologique, comme effet du monde industriel et de la société de consommation sans limite, rend obligatoire un accord structurant dont le principe est l'objet de notre thèse. La problématique est aussi celle, bien sûr, de la paix, de la coexistence pacifique. L'exemple de l'île de Pâques montre que les deux thèmes sont liés. L'île petite représentait pour ses habitants l'ensemble du monde habité. Notre situation est comparable. La Terre représente pour l'humanité aujourd'hui l'ensemble du monde habité et elle ressemble au village planétaire gestionné par Marshall McLuhan. L'approche contractualiste, telle que nous la mettons en avant, prend pour objet des individus rationnels, mutuellement désintéressés mais conscients de leurs intérêts. Le calcul dicte un comportement orienté vers la prise en compte du point de vue des autres, un point de vue moral, car la meilleure satisfaction, la satisfaction optimale de l'intérêt de chacun, passe par la satisfaction, elle aussi optimale, de l'intérêt de celui de tous. Maximiser son utilité, l'utilité désignant la mesure des préférences individuelles, n'équivaut pas, en effet, à choisir la meilleure option, sauf dans le cas de la certitude. Des compromis sont nécessaires, ils permettent, en s'accordant sur les avantages, établir de juste part, d'éviter les résultats désastreux. Viser la plus grande part et tout perdre en ne laissant rien non plus aux autres. C'est le fameux dilemme du prisonnier. Il y a dilemme parce que les individus, face à une situation dans laquelle il est proposé de mettre en place une action collective, qui suppose une coopération de tous les membres, ou au moins de la plupart d'entre eux, en vue de réaliser un bien commun, en l'occurrence de servir les intérêts de tous, c'est-à-dire aussi de chacun, ont le choix, dans l'absolu, entre s'associer ou ne pas s'associer à l'entreprise. Ou encore promettre de s'engager, puis ne pas honorer sa promesse, ce qui est la stratégie du free rider, le cavalier seul, ou encore opportuniste, assiette ou passager clandestin selon les traductions. Or, l'application d'un raisonnement instrumental par tous, selon lequel ne pas contribuer à la production tout en comptant sur la participation des autres, permettrait une maximisation de l'utilité espérée tout en évitant un coût en temps et en énergie, mène à l'échec de la coopération, et plus précisément à sa non-mise en place. Personne, alors, ne perd quoi que ce soit, mais personne ne gagne quoi que ce soit non plus. La situation est la même qu'initialement. Mais dans notre cas, pour notre problème, celui de l'environnement, est l'empire. Il y a en effet des conséquences à l'inaction. Le dilemme du prisonnier met en évidence les deux issues suivantes. Une défection des deux côtés n'est nullement avantageuse, puisque chacun y perd. Mais si l'une des deux parties abandonne, cela conduit à une exploitation de l'une par l'autre. La coopération dans le compromis, mais peut-il en être autrement, est toujours risquée. S'y engager, c'est accepter de jouer. Lorsqu'on s'engage dans une coopération, en effet, on ne sait pas précisément quel sera le résultat. Coopération n'est pas réductible à l'interaction stratégique dans laquelle chacun s'occupe seulement de ses intérêts. Elle relève d'un acte volontaire et est possible si et seulement si tout le monde s'engage, si tout le monde y participe et si tout le monde a le même droit à une portion du surplus. Le problème soulevé est un problème de conformité. Conclure un accord est une chose, le respecter en est une autre. Qu'est-ce qui pourrait assurer que l'accord sera respecté ? Hobbes, Léviathan 14, avait donné une réponse à l'objection prononcée par le personnage de l'insensé, le sceptique. Il porte bien son nom, qui portait précisément sur ce point. Cette réponse consistait à dire qu'un système de motivations externes permettrait de résoudre le problème. Selon Gauthier, ce n'est pas satisfaisant. La solution est fort coûteuse et conduit de ce fait à un résultat nécessairement suboptimal. Punir implique un coût. Tout le monde a avantage à ce que tout le monde sanctionne, mais personne n'a avantage à sanctionner. On pourrait se demander qui punit ceux qui ne veulent pas punir. Selon Gauthier, la clé du problème réside plutôt dans une contrainte interne résultant d'une transformation de la rationalité qui guide les individus. Cette dernière subit une modification au sens où agir rationnellement équivaut désormais, dans le temps logique du déploiement de la rationalité individuelle, à agir moralement. L'intérêt individuel et l'avantage mutuel peuvent s'accorder par l'entremise d'une maximisation contrainte, et le choix de l'agent n'est en aucune façon artificiellement orienté. Ce principe de la contrainte, de la maximisation contrainte, remplace alors celui de la maximisation de l'utilité individuelle, dans la mesure où le contexte n'est plus le même. De contexte asocial devient un contexte social. En d'autres termes, il est dans l'intérêt de l'agent, intérêt entendu au sens large, de se comporter moralement, même si cela implique des choix immédiatement contre-préférentiels. La maximisation contrainte définit la morale selon Gauthier. La force du raisonnement emprunté par Gauthier réside dans le fait qu'il parvient à déduire le politique et la morale, à construire une théorie qui comprend donc beaucoup, alors qu'elle s'appuie sur un très petit nombre de prémices. Je trouve formulation de l'esprit de sa démarche dans Morale et Contrat, je vais citer. Pour reprendre un paradoxe publicitaire, écrit-il, Morale et Contrat, chapitre 9, notre argument nous donne tout ce que nous n'avons jamais souhaité trouver dans une morale, et même moins. Il donne tout en nous fournissant un fondement rationnel qui ne traite pas à la légère notre conception de la rationalité. Il nous donne moins, dans la mesure où ce fondement ne vaut que dans les limites de l'avantage mutuel. Fin de citation. L'idée est que les prémices, que plus les prémices sont nombreuses, moins elles risquent d'être partagées ou accordées. Dans ces seules prémices se reconnaît cependant toute une idéologie, celle de l'homo economicus. Il n'est pas vrai qu'elles seront, parce que métaphysiquement faibles, non contestées. Contrairement à des présuppositions fortes qui, elles, sont substantiellement déterminées, elles ont l'avantage d'être formelles. Mais si elles entrent en contradiction avec nos intuitions, est-ce que le critère de la cohérence seule doit l'emporter? Le consensus doit plutôt s'effectuer, selon nous, au niveau politique, au sens où l'entendons. De cette façon aussi, on met de côté les conceptions substantiellement déterminées, imprégnées d'histoire et de tradition, pour ne faire intervenir dans l'espace public que les arguments pouvant être discutés. Ce qui demande un acte de foi sera dès lors d'emblée disqualifié. Pourquoi en effet privilégier une vision du monde plutôt qu'une autre? Et comment tenter de la faire admettre si ce n'est de force? Il y aura inévitablement des résistances. L'idée même de démocratie, par exemple, n'est pas unanimement acceptée. C'est ce qui fait dire à Rawls que certains peuples ou États sont hors la loi et s'excluent d'eux-mêmes de la société des peuples raisonnablement juste qu'il appelle de ses voeux. Cette société ne peut comprendre que des peuples s'entendant notamment sur une conception de l'individu faisant place à des libertés fondamentales, la liberté d'opinion et d'expression, notamment, et respectant la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Des peuples, et non pas des États, cela fait toute une différence dans la théorie, en la rendant adaptable et sensible aux situations particulières. Certains problèmes de cohabitation au niveau international se posent en effet aussi bien au niveau national, dans le cas des États multinationaux, quel État finalement ne l'est pas. Voilà une réalité contemporaine avec laquelle il faut composer. Cet aspect des choses a cependant échappé à Rawls, dont la pensée demeure inscrite dans un cadre westphalien. Il parle des peuples et considère ce faisant seulement ceux qui disposent d'un gouvernement. C'est pourquoi il est possible de penser avec Rawls contre Rawls, pour reprendre l'expression de Michel Seymour dans son article « Rawls et le droit d'État ». Le cadre westphalien désigne un système issu d'une série de traités passés entre différents pays de l'Europe au XVIIe siècle. Qui mit fin à la période des guerres de religion. Puissance protestante et puissance catholique pouvaient désormais s'allier. Monique Kantos-Sperber, dans son ouvrage « Le bien, la guerre et la terreur pour une morale internationale » résume, je cite, « Les données de base de ce système définissent l'objet même des relations internationales. Les États sont souverains et indépendants. Les individus n'ont ni droit ni statut international. La norme de non-intervention entre les souverainetés est absolue. Il n'existe pas de pouvoir au-dessus des États ni de règles contraignantes qui s'appliquent à eux. » Fin de citation. Mais d'autres acteurs aujourd'hui se prévalent d'une légitimité sur la scène internationale. Les individus d'une part, les peuples et les nations dispersées sans territoire ou sans État d'autre part, les organisations non-gouvernementales, ONG, les corporations et entreprises, enfin. C'est que certaines d'entre elles détiennent un capital plus grand que le produit intérieur brut de certains pays. Ils ont donc une grande influence. Cette diversité d'acteurs et les normes qu'ils apportent sur la scène internationale, non hiérarchisées, posent aux juristes la question de la fragmentation du droit international. Par le remarquable article des lignes entre guillemets dans l'Electronica. Il n'y a plus un seul interprète du droit, mais plusieurs, et dès lors l'unité se dissout. Alors lorsque l'un ou l'autre des principes fondamentaux du droit des peuples n'est pas respecté, notamment celui que nous avons mentionné, il est difficile d'entrer en dialogue. Donc, la qualification de peuple hors la loi pourrait certes être refondée si par loi on entend la loi révélée. Ce serait jouer sur les mots. La difficulté est sérieuse et les applications importantes. Attentats et terrorisme international rappellent et signifient tragiquement la réalité des tensions du 7 ordre. Plusieurs problèmes peuvent encore être soulevés. Il s'agit de les surmonter pour faire valoir l'idée d'un contractualisme international, c'est-à-dire, et notre but sera atteint si nous parvenons, dans notre thèse à montrer, proposer un cadre théorique adapté pour qui voudrait se livrer à l'exercice d'une application. Que peut bien signifier l'appel à l'intuition au niveau international ? Comment espérer que ce critère permette d'atteindre un équilibre réfléchi, tel que l'entend Rawls, avec nos principes de justice, quand les intuitions divergent ? En présence du conflit des orthodoxies, nulle solution, il n'y a, semble-t-il, de place que pour la violence. Mais face à l'évidence, le climat change, et si rien n'est fait pour contrer la tendance, les conséquences sont désastreuses, nul acte de foi n'est demandé. C'est sur cette intuition que le contractualisme international devrait se reposer, et nous essayons ici d'en donner les réponses. Le contractualisme peut servir de fondement à une politique internationale, telle est notre thèse, mais il doit s'appuyer sur l'histoire, c'est-à-dire s'inscrire dans le champ, dans le temps présent, et prendre pour objet premier la sécurité à l'égard des conditions climatiques et environnementales. Quelle forme pourra-t-il prendre ? Il faut faire le départ entre une perspective qui consisterait dans la recherche d'un contrat social international unique, global, s'effectuant en un instant T, qui étant réglé alors une fois pour toutes, la paix, la justice, etc., et une perspective moins utopique, consistant à penser à la mise en place de structures ad hoc, problématique après problématique, s'attachant au cas par cas. Ce qu'un contractualisme international, sur le plan international, doit viser à établir, pourrait-il ressembler à un plan Marshall ? Ce plan, mis sur pied par les États-Unis à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour aider l'Europe dans sa reconstruction et y contrer l'attraction soviétique, avait été concluant et peut servir de modèle. Mais seule une instance étatique pourrait avoir la force de mettre sur pied un tel nouveau plan Marshall. Il implique une dimension volontariste, mise en place de contraintes et d'objectifs à atteindre avec des moyens clairement assignés, dont les modalités d'attribution, le prêt, le don, la fiscalité, la taxation, par exemple, sont à définir en fonction de critères de justice statuée. Si l'équité n'est pas respectée, les partenaires s'estimant floués pourront-ils s'obliger à respecter le contrat ? La contestation ou la demande de discussion en vue d'ajustement ne doit cependant pas porter sur le simple fait de demander des avantages injustifiés. Des avantages qui correspondent à l'avantage personnel au niveau individuel, sans prise en compte de celui des autres. Car alors on sort du cadre de la coopération, où le compromis est nécessaire, pour retourner à celui moins exigeant des interactions et finalement à l'état de nature. C'est ici que les sanctions doivent intervenir. Sans de telles sanctions, l'attitude pour faire en sorte que les contrats passés soient respectés, Hobbes l'a très bien montré et Gauthier le formalise dans le cadre de sa théorie, on ne peut compter sur aucune garantie. Il ne faut pas qu'un partenaire puisse décider de se désister après avoir convenu de l'importance de l'enjeu à propos duquel l'accord est passé. Il ne le faut pas, mais comment fermer cette option ? C'est, nous l'avons vu, tout le problème de la motivation et celui de la condition de la mise en place d'une action collective dans la durée. Les États souverains peuvent tout à fait se retirer du jeu. C'est là une difficulté réelle. On ne peut pas imposer de manière autoritaire un accord, sinon on appelle le conflit. Les États demeurent indépendants au sens où les décisions les concernant leur reviennent. Aucun État ne peut interférer dans leur politique intérieure. Sauf dans des cas tels que les génocides, par exemple, car celui qui s'est déroulé durant la Seconde Guerre mondiale ne fut hélas pas le dernier, et face à cela, la communauté internationale ne peut rester neutre, puisqu'alors se trouve bafoué un principe qui transcende clairement le niveau national. L'intérêt des États demeure dans les domaines qui servent leurs intérêts. C'est ce qu'en conclusion, nous proposons de prendre en compte, les États étant tout comme les individus, et leurs intérêts ne sont pas réductibles à la somme des intérêts des individus, les acteurs égoïstes. Ils sont faits pour survivre dans l'état de nature internationale. Il s'agit de les convaincre de l'intérêt pour eux, le contractualisme international. Jusqu'où, en conclusion, donc, jusqu'où les obligations peuvent-elles porter ? pouvons-nous invoquer une communauté de destin comme fondement à la coopération sur le plan international? Le contractualisme peut-il servir l'avenir? Le contractualisme international est possible et les défis soulevés ne sont pas un obstacle à sa réalisation dans une politique internationale. C'est même dans la mesure où il a des défis à relever que le contractualisme à cette échelle devient possible, à la fois nécessaire et possible, ou plutôt possible parce que nécessaire. L'individu rationnel, s'il se rend compte des conséquences prévisibles de son action et du pouvoir par ailleurs d'une action possible par le mécanisme des sanctions notamment, pourrait vouloir un tel système de souverain international avec des sanctions. Il n'est donc pas nécessaire de développer une éthique environnementale, ce seront éventuellement bien les principes de justice qui pourront valoir, y compris dans ce domaine. Les activités humaines sont telles en effet qu'elles mettent à moyen terme en péril la viabilité de la planète. Il incombe à l'humanité, tout simplement si elle veut perdurer, de s'accorder pour combattre des problèmes qu'il devient de plus en plus difficile d'ignorer. Il faut donc penser à une entente entre tous les pays qui ne réduisent pas à néant leur particularité, mais fassent passer celle-ci au second plan. Sur des enjeux aussi importants que ceux concernant l'environnement, le doute devant l'action en effet ne saurait être perdu. Un État mondial minimal pourrait fournir ce cadre de coopération sur les questions environnementales exclusivement. Car la sanction, si elle n'est pas politique, économique ou sociale, sera naturelle. La politique devra alors réagir. La question de la sanction appellerait de long développement. Ce qui nous intéresse pour notre problème est plutôt la question des incitatifs. La sanction en est un, il y en a d'autres. La solution au problème de l'action collective, où l'on raisonne en termes de coûts-bénéfices, peut être obtenue par différentes voies. En augmentant les coûts pour dissuader, premier moyen, par le biais de la taxation concernant les polluants, par exemple, le choix de la pollution devient ainsi moins rationnel que celui d'une solution respectueuse de l'environnement. En augmentant les avantages pour l'agent, second moyen, ou en réduisant les coûts qu'il doit engager, encore un autre moyen, cela a été l'argument d'ailleurs pour convaincre les parties réticentes à entrer dans le protocole de Montréal. Les pays qui n'étaient pas en mesure d'adapter leur technologie ont été aidés. Une solution tout autre aux externalités enfin est l'interdiction. L'accord international concernant l'inviolabilité de l'Antarctique, par exemple. Il s'agit d'internaliser les externalités, c'est-à-dire de faire supporter le coût de ces externalités aux agents pour qu'ils abandonnent d'eux-mêmes le comportement produisant ces externalités. Les externalités désignent tout ce qui ne passe pas par l'échange marchand, c'est aussi qu'un tiers à un échange marchand subit. Donc, deux définitions possibles, la première plus large qui provient de la problématique des biens publics globaux, l'économie. Nos intérêts sont mal desservis dans une situation internationale sans contrat. Telle est notre thèse. Gauthier nous apprend que dans l'intérêt des individus égoïstes, il faut un état minimal. Gauthier sous-estime l'environnement à cause peut-être de ses préférences personnelles, mais on n'est pas tenu de le suivre là-dessus. L'état minimal devrait porter sur la question de l'environnement parce qu'un environnement menacé est aussi un environnement qui menace tous les individus, indépendamment de leur location dans le temps et dans l'espace. Dès lors, l'état minimal international ne devrait pas considérer les questions de justice sociale, mais devrait être une instance de sanctions extrêmement forte pour civiliser le marché. La thèse peut donc être radicale. Le souverain international devrait être un souverain environnemental, appelons le Gaïa par exemple. L'argument donne de la force aux écologistes et peut convaincre les égoïstes rationnels, nombreux, de voter pour ce système de sanctions réciproques ou tout autre type de système permettant d'obtenir des résultats équivalents. Oui, je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup pour cette présentation. On va tout de suite ouvrir aux questions. On vous donne le temps de digérer un peu le discours en même temps que le repas.
Moi, j'aurais quelques remarques. Je trouvais très intéressant. Merci, M. Chevalier. Je crois que c'était intéressant de prendre aussi l'environnement comme objet pour concrétiser un peu votre propos. Alors, vous avez, je crois, petite remarque, vous avez parlé d'abord de contractualisme, pardon, j'ai le mot constitutionnalisme en même temps dans la tête, comme finalement une façon de dépasser la transcendance de l'État pour un État non transcendant, etc. Moi j'ai des doutes là-dessus parce que l'État aujourd'hui, même si il est moins habité par la religion qu'il a pu l'être, Il n'empêche, et beaucoup d'autres l'ont dit que moi, la Carl Schmitt et tous les concepts prégnants de l'État sont théologiques. La souveraineté, l'unité du pouvoir, la sacralité de la loi, tout ça. Alors, je vais d'abord les énumérer, vous pourrez y répondre dans l'ordre qui vous convient. Alors, très bien, contractualisme, alors, bon, ce n'est pas cet entendement de l'État, je ne sais pas, peut-être, on verra. Mais, vous avez parlé à la toute fin de l'État global, ou de Gaïa, l'environnement, etc. Mais qu'est-ce qui va légitimer le contractualisme global? Comment être les dieux de ce contractualisme? On en avait, maintenant on n'en a plus trop. Alors quoi, le vote, bon, c'est toujours, alors, je ne sais pas, j'ai des doutes. Alors vous avez évoqué à un moment donné, parce que là, vous aviez une vision très westphalienne de votre propos. Vers la fin, vous avez mis un peu d'eau dans votre vin, si je puis dire, en évoquant la société civile, les acteurs privés, etc., qui sont une source de très importante régulation, qu'il ne faut pas négliger, et qui ont peut-être un rôle aussi à jouer. En fait, c'est très difficile toujours de s'abstraire de l'optique nationale, comme disait Ulrich Beck, du nationalisme méthodologique. C'est-à-dire d'essayer d'imaginer un modèle de gouvernance globale qui sorte des schémas classiques de l'État ou des reproductions qu'on peut faire. En disant qu'on va reproduire au niveau global, s'il existe. Alors ça, c'est très dur. Mais il faut faire cet exercice. Voulant à ce moment-là non pas se référer au droit international, pour moi le droit international ne répond absolument pas à ces ambitions que vous pouvez avoir. C'est un droit plutôt transnational qu'il faut envisager, où le droit national peut jouer un rôle, mais jamais seul, donc avec d'autres acteurs. Par ailleurs, vous avez parlé, et je crois que ça va être une partie importante de votre thèse, de la question du respect des obligations. Alors moi je vous réfère à une étude que vous connaissez peut-être, c'est celle des époux Chaïef, en 1995, deux professeurs de droit international de Harvard, si vous vous souvenez, bon, de Yale, je m'en rappelle plus, en fait, peu importe, qui ont passé à travers tous les traités internationaux auxquels les États-Unis étaient partis, etc., puis aussi d'autres pays, évidemment, de ces traités très multilatéraux, ils ont fait une étude très minutieuse. Parce qu'évidemment, le réflexe général de n'importe quel politologue ou même juriste, c'est de dire le droit national, bon, c'est pas du droit, ou alors le pouvoir de sanction est nul, et ils ont remarqué dans cette étude-là que la majorité des violations, pour moi il y a très peu de violations du droit national, contrairement à ce qu'on peut croire, des traités signés, et que les quelques violations qu'on pouvait remarquer étaient en grande partie dues à des manques de moyens des États, notamment au plan environnemental. Ils ne sont pas en mesure de mettre en œuvre ça parce qu'ils n'ont pas les ressources techniques, monétaires, financières. Donc, je crois que cette étude pourrait peut-être vous donner un éclairage, parce que vous savez, la sanction, c'est toujours, ça peut s'appeler l'obsession du positivisme, mais moi je crois qu'il y a pour beaucoup de choses, le fait d'appartenir ou non à la communauté internationale, ça suffit en soi-même pour entraîner l'adhésion à un corpus instrumentaire comme des traités ou du droit national, peu importe. Ça joue beaucoup. Alors, c'est parce que, pas venir et dire, bah, tiens, est-ce qu'il y a un tribunal, comme au plan intérieur, et puis est-ce que si jamais je ne respecte pas mon obligation, je risque des amendes, de la prison, etc. Je crois que ça, c'est un modèle qui n'a jamais vraiment fonctionné, même au plan interne, de toute façon. L'étude que Pierre Moreau vient de faire, là, avec ses fameux modèles par rapport à l'individu, par rapport à la justice, dépend, bon, c'est un modèle qui a un calcul, que chaque, et puis que. Ce n'est pas du tout la sanction qui joue ce rôle si important que ça. Et sinon, dernière remarque, sur Rose, que vous citez à quelques reprises, alors, position qui n'est pas inintéressante, c'est l'exclusion de certains pays, mais là aussi qui est très westphalienne, dans son cas, alors que moi j'ai l'impression qu'on est au-delà de l'État-nation, de plus en plus, même si les nations et les États vont demeurer des acteurs incontournables, mais ils sont plus seuls. Et peut-être que si vous voulez faire avancer votre thèse contractuelle, il faut chercher d'autres alliés que les simples États. Et puis la force de position est celle occidentalo-centrique aussi, mais ça c'est autre chose.
Je vous remercie beaucoup pour ces remarques. Je vais tâcher de répondre peut-être pas à tous les points, vous avez soulevé beaucoup d'éléments qui m'intéressent, qui questionnent ma réflexion.
Alors, l'un de ces éléments, c'était au début celui de la théologie, de la place de la transcendance dans la réflexion. Je mentionne la transcendance déjà au tout début de mon propos pour situer le contractualisme, donc comme cadre théorique, pour le situer dans l'histoire de l'histoire. Et donc, c'était bien son objet de diriger les individus comme individus égaux et de comprendre la fondation du politique, de l'État, autrement qu'en se référant donc, à une transcendance, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire, ça peut aussi bien être la nature ou d'autres transcendances, c'est-à-dire qu'on s'abstrait d'un donné, on cherche à montrer qu'on peut construire plutôt l'État, que l'État repose sur la volonté des individus. Bon, dans d'autres cadres théoriques, comme celui des communautariens, ça vient d'Aristote, on considère l'État comme donné naturel au même titre que la famille. Il n'y a pas lieu, donc. Mais la hiérarchie à ce moment-là est naturelle et il existe des individus qui ont moins de droits que d'autres. Donc, je reviendrai aussi sur la question du. Il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné dans mon propos, en fait, c'est que. La question qui m'intéresse, finalement, n'est pas tant celle du comment penser la traduction institutionnelle, même si je me suis aventuré un petit peu sur ce terrain-là, comment penser la traduction institutionnelle de mon propos, concrètement, mais celle de la motivation, celle du pourquoi. Pourquoi vouloir, finalement, un contractualisme au niveau international pourquoi ? Alors, j'ai essayé d'en donner les raisons en invoquant, en rappelant, finalement, les données qui sont les problèmes que nous connaissons tous aujourd'hui, ou que nous voulons ignorer, mais s'impose, à mon avis, donc aux individus et aux États. Et donc, ceci pourrait donc servir de base pour un accord. Donc, à mon sens, cet accord ne viendrait donc pas interférer dans les autres problèmes liés aux relations entre États. Mais il doit se situer. Donc, le problème se situe, à mon avis, au-dessus finalement de tous les problèmes que l'on connaît au niveau mondial. Donc, c'est ce que j'ai essayé de montrer, je ne sais pas si j'y suis parvenu. Je pourrais ajouter aussi, donc, par rapport à ce que vous disiez, à propos du droit international, qui ne répond pas à toutes les questions. Il faudrait plutôt penser en termes de droit transnational, peut-être, ou inclure donc, parmi les acteurs qui ont un rôle sur la scène internationale, pas seulement les États, mais les individus. Je les ai mentionnés, ces acteurs, je n'ai pas insisté sur leur place, parce que finalement, les individus, qu'ils soient acteurs ou étatiques ou acteurs individuels, qui m'importent de convaincre, ce sont les individus égoïstes, mais dans un sens tellement rationnel que leur attitude en devient irrationnelle. Ce sont les opportunistes, ceux qui réfléchissent à courte vue. C'est irrationnel parce que finalement, ils ne voient pas que leur intérêt est dans la coopération. Leur avantage, c'est s'ils restent avec pour seul objectif de satisfaire leurs intérêts immédiatement individuels directement, ils perdent tout ce que peut leur apporter la coopération et ils se trouvent normalement même exclus s'ils sont identifiés comme tels, comme profiteurs, comme parasites, comme freeriders. Donc c'est vraiment ce problème-là qui est central. J'ai essayé de mettre l'accent là-dessus, mais je fais davantage de ma thèse. Et ça évoque en fait ce que vous disiez, un propos que tenait Peter de Precht, le directeur de l'Institut l'Institut d'études internationales, Peter de Precht disait que le droit, le discours juridique est toujours en décalage par rapport à la réalité. Donc ici, ce sont les acteurs, peut-être ne les prend-il pas tous en compte. Le droit international, en tout cas, vu que c'est sûr, reste pour l'instant encore dans un modèle qui attribue une place unique aux États, on ne considère pas, je crois, les individus encore, donc il faudrait une refonte de ce droit international. Mais si le droit est en décalage, toujours par rapport à une réalité qui le possède, comme la théorie peut thématiser ou expliciter une réalité qui la précède, en philosophie, on a souvent aussi peut-être toujours un retard par rapport au discours juridique lui-même. C'est que chacun, en fait, œuvre dans son propre champ, et c'est intéressant, bien sûr, donc c'est une évidence, mais de collaborer, de compléter les informations, donc de se pencher selon diverses perspectives sur les mêmes problèmes, thématiques, les problèmes communs, qui interpellent et qu'on traite avec ses outils propres. Enfin, sur le modèle de la sanction, eh bien, oui, j'ai un peu insisté là-dessus, sur cette problématique, tout en disant qu'elle était éminemment complexe, qu'elle appellerait de long développement. Et j'ai dit aussi que ce n'était pas en fait la seule solution possible pour faire respecter les accords. Ce qui importe en fait, c'est de réguler, de prendre en compte les externalités, donc qui désignent, je le rappelle, tous les coûts qui sont passés sur des tiers extérieurs et des échanges marchands, mais qui désignent aussi donc, tout ce qui ne passe pas par les échanges marchands finalement. C'est l'air, l'eau, c'est ça, mais à la limite, dans une telle perspective, on viendrait à payer notre air, l'air qu'on respire, c'est ça. Si on veut internaliser au maximum toutes les externalités, on en viendra là. C'est une possibilité, bon, parmi d'autres. Donc c'est la question des incitatifs qui est à prendre en compte, savoir comment convaincre des acteurs potentiels, qui ne sont pas encore forcément intéressés par le contrat international dont j'essaie de présenter l'objet, le cadre et puis dans mon propos. Et, ces acteurs donc sont à prendre en compte et il s'agit de les convaincre donc de plusieurs manières. Je disais la fonction, mais aussi ça peut être des incitatifs tels que une aide, donc leur permettre d'engager des coûts moindres s'ils n'ont pas les moyens d'engager tous les coûts nécessaires pour mettre en place l'action collective. C'est aussi surtout la question de l'action collective au niveau global qui est soulevée à mon propos. Donc, voilà, je n'ai pas répondu à toutes vos questions, mais j'en ai plus un moment. Je ne sais pas si tu as répondu.
Ok, d'autres questions?
Ah, c'est moi.
Oui.
Je vais juste faire, avant de poser ma question, je vais faire une aparté. Lundi 15, c'est le mot gouvernance qui m'a fait cliquer ça. Oui, c'est ça, Bernard. Je suis responsable de la coordination d'un séminaire qui s'appelle Théorie et émergence du droit, qui existe depuis une dizaine d'années. Et puis, cette année, on change la formule, on a ouvert le séminaire à tout le monde, donc vous êtes tous les bienvenus. Depuis 2 ans, on travaille sur le thème de la gouvernance, et cette année, on regarde la gouvernance sous des aspects plus pratiques. Donc on a essayé d'inviter, on a invité en fait, les acteurs issus de la scène publique, de la scène privée et de la scène communautaire, en fait beaucoup de fonctionnaires, des gens aussi qui ont travaillé dans quelques organisations communautaires, je ne me souviens plus exactement des noms, mais bref. Ces gens-là, on veut que ces gens-là viennent nous parler de comment est-ce que la gouvernance s'est mise en place, comment est-ce qu'ils ont vu s'il y avait, au cours de leur longue expérience de travail, est-ce qu'ils ont vu des transferts au niveau de la gouvernance, est-ce que cette gouvernance-là a été initiée par des textes de loi, est-ce que c'est une gouvernance qui s'est mise en place de façon plus spontanée, enfin, on va aborder un tas de sujets comme ça avec eux. Le séminaire est donc lundi 15 dans la salle 16 du Hall de Chien Survey à l'Université McGill à partir de 16h30 et on reçoit lundi Louis Bernard qui est travaillé dans le gouvernement mais qui est aussi gouvernement du Québec mais qui est aussi consultant. Donc voilà, c'est une invitation à tous.
L'info est disponible sur le site web.
Oui, voilà. C'est ça. Ma question, c'était en fait dans ce que vous avez exposé, j'ai un petit peu de mal à voir. Je comprends que vous voulez. C'est une. Ok, on veut que les États collaborent. On veut que. Mais j'ai peur que. Déjà, je trouve que, effectivement, comme M. Ménéchet disait, vous ne donnez pas assez de place aux autres acteurs. Je pense notamment, vous avez dit, aux groupes environnementaux. Et je me dis peut-être que ce serait intéressant d'aller regarder la rationalité de ces propres acteurs-là, mais aussi les États, comment vous les appelez, ceux qui ne veulent pas collaborer, là, les freeriders, parce que je crois quand même qu'il y a une différence entre le discours concernant le respect de l'environnement et la pratique. Je pense notamment à ce qui se passe au Canada, mais aussi aux États-Unis, où on dit oui, 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 on est tout à fait d'accord pour signer un accord, pour respecter les droits environnementaux, mais si les États-Unis, et c'est ce qu'ils font, et le Canada décide de ne pas les respecter, ils ne vont pas les respecter, qu'ils soient freeriders ou pas, je veux dire, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, et les groupes environnementaux aussi, je veux dire, chacun est pris dans sa propre logique, va mettre en avant un discours de respect des droits de l'environnement, sans pour autant, dans la réalité, le faire. Comment faire ça? J'arrive pas à voir dans notre exposé comment dépasser ce problème entre le discours et la réalité. Et en plus de ça, il me semble que c'est beaucoup plus complexe que ça. Chaque groupe, et dans ce que vous disiez, la société civile, mais dans la société civile, encore là, ça regroupe mais une multitude d'acteurs qui ont leur propre rationalité. Est-ce que c'est bien desservir la cause que de simplifier en dire il y a des États et puis il y a d'autres groupes? Enfin, moi j'ai plutôt cette tendance à, plutôt que de regarder en haut, de regarder en dessous et d'essayer de voir quels sont tous les acteurs, de bien les identifier et là peut-être d'arriver à une solution plutôt que de voir la chose du haut en disant un accord international. Enfin, ça me semble réducteur, un petit peu. Et ça simplifie trop la réalité.
Alors, je vous remercie pour ces questions pertinentes et cette demande de précision. Alors, je vais d'abord reformuler votre question. Vous me dites que je ne fais pas assez de place aux autres acteurs. Je les mentionne, mais je n'accorde pas l'importance. J'accorde surtout l'importance aux individus égoïstes, aux États aussi. Quelle est leur rationalité? Là-dessus, je dirais, donc, je vais revenir sur la définition de la rationalité à laquelle je me réfère. C'est celle de David Gautier, la rationalité instrumentale, celle qui poursuit des objectifs et qui, afin d'atteindre ses objectifs, se donne donc les moyens, identifie les bons moyens pour les atteindre. C'est une rationalité qui calcule, c'est une rationalité donc qui n'a rien à voir avec la rationalité, disons, avec ce que Rawls appelle le raisonnable, donc qui prend en compte la morale. Mais donc, ce que fait Gautier, c'est qu'il arrive, il cherche à déduire de cette rationalité instrumentale, minimale, la morale, et la morale, selon lui, est à comprendre comme une rationalité qui s'auto-contraint, qui se contraint elle-même, parce que c'est son avantage, et ainsi, donc, il arrive à déduire donc, les droits, enfin, je ne vais pas montrer dans mon propos, mais les limites des interactions, ce que chaque individu peut faire et ne peut pas faire. Donc, cette rationalité, je pense qu'on peut en garder une seule définition, et elle s'applique aussi bien aux acteurs individuels qu'aux acteurs collectifs. C'est-à-dire les acteurs individuels, tout comme les acteurs collectifs, mobilisent cette même rationalité. Donc finalement, peut-être que dans ce que vous disiez, c'est pas tant, vous avez mentionné la rationalité, mais c'est plutôt aux objectifs que vous pensiez. Vous me disiez que chaque groupe, société civile, acteur multiple, a sa propre rationalité, et les poursuit ses buts. Il y a une même rationalité à l'œuvre, mais donc les buts sont certes différents. Alors comment les concilier ou comment faire en sorte qu'un accord entre tous ces intervenants, tous ces acteurs sur la scène internationale soit possible? Dans mon propos, donc, j'en identifie un, le but, celui d'assurer une sécurité environnementale, en tout cas des conditions de vie qui permettent que se poursuive la vie pour tous, donc aussi bien les individus que les États, que ça me semble être l'enjeu majeur. Alors, un des problèmes, donc cet enjeu environnemental, a été pris en charge, comme je le disais, par le protocole de Montréal, qui a identifié un objectif précis, celui des problèmes du trou dans la couche d'ozone, et qui, pour tenter d'y remédier, il y arrive. Enfin, l'objectif sera définitivement atteint en 2070, je crois, mais pour l'instant, il y a vraiment des résultats très probants, même qui vont au-delà des espérances, avec la simple élimination d'un produit en cause unique, le CFC, par les États, les pays qui les mettaient. Donc cet accord donne des résultats et donc à mon sens il est encourageant. Ce qui est intéressant de mentionner, c'est que en amont de ce protocole, en fait le protocole a été informé des travaux de la théorie des jeux, de la théorie du choix rationnel, parce qu'on problématise, la question se pose en termes donc d'incitatifs, en termes d'action collective, en termes de puissance, et puis avec tout problème que l'on trouve formalisé dans la théorie des jeux. Donc, ce que vous me disiez, ce que vous identifiez comme un discours dit par le haut, c'est vrai qu'on se situe dans une, je me situe dans une perspective abstraite, théorique, mais s'applique donc au bas, c'est-à-dire à la réalité. On le voit donc par exemple dans le protocole de Montréal. Donc mon enquête n'est pas tant descriptive, même si j'ai mentionné beaucoup d'éléments pragmatiques, c'est-à-dire dans ma réflexion, des rappels de l'actualité, puis des objections que pouvaient soulever les problèmes qu'ensuite j'ai pris en charge donc, dans la partie théorique de mon propos. Ces éléments-là donc, sont dans la forme donc, la démarche, mais il y a bien évidemment un lien entre les deux discours. Le discours concernant les faits, le discours concernant le droit, finalement. sais pas si je réponds correctement à votre
question. C'est pas une histoire de pragmatique et théorique, c'est une histoire de macro et micro. Tout en étant abstrait, c'est la façon de voir, plutôt que de voir les problèmes, on les voit du haut, on voit des états, c'est de regarder en dessous. Et je pensais notamment, c'est dans le protocole de Kyoto, je crois, où les États ont le droit de polluer jusqu'à un certain... il y a un certain seuil. Ce qui se passe, c'est que les grands États rachètent à des petits États le droit de polluer. Comment est-ce qu'on fait pour ça? Ça, effectivement, ça, c'est une question pragmatique. Mais il me semble que si on regarde ça du haut, c'est-à-dire qu'on voit les États, on voit, on va dire même, je vous accorde, la société civile, on va voir ça et on va arriver, tout le monde est pour la protection de l'environnement, tout le monde est pour sauver la Terre. On a tous conscience qu'effectivement, là on est rendu, on est pratiquement fin octobre, je veux dire, jusqu'à la semaine dernière, mais c'est une réalité, il faisait 30, ce qui n'est absolument pas normal. Donc je veux dire, tous autour de la table, que ce soit Bush, etc., on va tous être pour la protection de l'environnement. Maintenant, il y a un discours, et il y a, tout le monde va dire, oui, on va signer des accords, on va se mettre, on va s'entendre. Quand on voit les conférences, les accords, quand ils sont signés à Kyoto, etc., il y a un tas de beaux discours qui sont sur la protection de l'environnement. Donc ça selon moi, c'est le résultat de regarder ça par le dessus. Si on regarde en dessous, d'une façon théorique aussi, pas seulement pragmatique, on va voir effectivement quelle est la rationalité, autrement dit, quels sont non seulement les objectifs, mais les factions de fonctionner de chaque acteur qui joue sur cette scène-là. Est-ce que ça ne peut pas permettre de voir, de complexifier la chose? Parce que c'est ça le problème, selon moi, avec l'environnement, mais avec un tas d'autres choses, c'est qu'on simplifie. C'est plus une question d'État, c'est plus une question d'acteur, ou qui est délinquant et qui n'est pas. Encore là, les États-Unis et le Canada en sont une bonne chose. Ils vont être pour la protection de l'environnement, en autant que ça n'interfère pas dans leur développement économique. Ok, juste cette phrase-là fait qu'il y a une nuance entre le discours et la réalité, et ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont mettre. Alors que si on regarde en dessous, mais si on regarde par en dessous avec tous les acteurs, on va être capable de voir leur rationalité, et il me semble essayer de voir comment se passe le jeu au niveau de ces accords-là. Et c'est peut-être une étude qui est effectivement vaste et très complexe, mais c'est peut-être comme ça qu'on va arriver à déceler et trouver, je dirais, une façon de se rejoindre qui soit un peu plus...
Oui, je vous remercie pour ce retour de la question. Vous apportez une précision, en effet, dont je n'ai pas tenu compte dans ma réponse. J'ai employé le mot pragmatiste, en fait, de manière à tort. Ça réfère à un courant en philosophie politique. Là, je voulais simplement dire que pragmatiste, qu'on se réfère à l'empirie. C'est vrai, donc, le problème, c'est qu'on simplifie. Il faudrait complexifier davantage les choses. Donc, ce que j'ai présenté là aura des prolongements. Enfin, je pourrais... Il y a des prolongements à donner à ce que je présente. Donc, j'ai simplifié pour mon propos. J'ai peut-être évoqué beaucoup d'éléments problématiques, hein, toujours les approfondir par contrainte de temps et d'information. Mais, donc je suis d'accord avec vous sur... je vous conseille de... Je reconnais que il faut que le discours sur l'environnement, tout le monde le partage. Mais justement, le problème, c'est pas ça. Le décalage entre un discours, on est d'accord sur le principe de faire attention au milieu dans lequel on vit, mais dans les faits, donc on n'y fait pas attention, ou plutôt on compte sur les autres, on se dit si les autres acteurs, les autres individus font attention à l'environnement, moi je peux bien pas y faire attention, c'est pas trop grave, sauf que si tous les individus raisonnent de la même manière, alors à ce moment-là, ça empire. Alors c'est vraiment un problème central, celui du free riding, celui... c'est le dilemme du prisonnier, finalement. On peut se référer au livre pour en voir l'importance et l'ampleur, enfin... de Joseph Heath sur la société efficiente. Il mentionne une multitude d'exemples où les problèmes qu'on connaît dans la vie de tous les jours sont à comprendre en ces termes. On peut les formaliser en termes de théorie des jeux, de théorie du choix rationnel, montrer que les dilemmes se posent, le même dilemme à chaque fois se pose. Donc pour la mise en place d'une action collective, un problème de, plus que de coordination, de coopération. Alors je prends acte de cette critique, de cette remarque qui est pertinente, qui est juste. Il faut donc faire attention à ne pas seulement présenter finalement de belles idées, de beaux principes, mais voir, alors c'est pour ça que j'insiste sur le problème de la motivation, comment concrètement on peut les prendre en compte, les traduire dans les faits. Effectivement, il mentionne le fait que les États qui ont plus de pouvoir, plus de moyens, achètent aux petits États qui n'ont pas les moyens, qui sont plus démunis, le droit de polluer. Que c'est quelque chose qui existe et qui est rendu possible par le cadre qui a été mis en place, mais ça crée des inégalités. Finalement, les acteurs sur la scène internationale, c'est pas une découverte, ce que je présente là, c'est une évidence, ce sont des acteurs inégalitaires, des États même au sein de l'ONU, n'ont pas tous le même pouvoir, et toujours, souvent, entre grandes puissances seulement. Donc, et même bon, concernant le protocole de Kyoto, on sait que bon, les États qui ne sont pas d'accord ont fait eux-mêmes leur propre réunion bon, pour prendre en compte ces problèmes. Enfin, ça, même si ça vient tardivement, on peut dire, bon, d'accord, ils sont conscients aussi de problèmes, ils veulent simplement pas se mettre dans le même jeu que tous les autres. Alors, il y a un problème de coordination. Le principal, c'est que l'objectif fixé soit atteint. Et ce que je dis, c'est qu'on n'a pas le choix, en fait, de l'atteindre, parce que donc, les problèmes qu'on connaît aujourd'hui, vous mentionnez la température, etc., c'est des problèmes concrets, mais on va les connaître encore plus dans les prochaines décennies, prochaines. Donc, c'est ce qui doit alerter, en tout cas, tous et chacun.
Ça, il fait froid.
Oui, moi j'avais une couleur de pensée, puis je trouvais ça vraiment intéressant, j'ai pu faire des liens avec mes propres travaux. Nous, on travaille sur les en voie de la santé, sur les plans de pandémie contre la lutte contre l'influenza. Puis il y avait deux liens que j'ai pu faire. Et à un moment donné, vous mentionnez qu'il y a l'homme, il y a aussi les animaux dont il faut tenir compte. Puis nous, ben, sommes-nous présents, aussi étrange que ça peut paraître, dans le cadre du plan de pandémie, on regarde la santé des gens, ce qu'on peut faire pour prévenir l'influenza, mais on a toujours à l'œil tout ce qui se fait au niveau des études avec les animaux, parce que ça va venir de là. Donc, on est toujours, notre arrière-scène est toujours, on regarde les études de ce qui se passe au niveau des animaux. Donc, nous, ça fait partie de notre champ d'analyse. Puis la deuxième chose, c'est comment c'est dur au niveau international. Encore là, on a un exemple dans le cas des camps de pandémie d'influenza. Normalement, les États, là où on se parle, devraient avoir la plupart de leurs plans de préparation. Ça devrait être fait, mais ça ne l'est pas. Alors qu'on peut avoir une pandémie demain matin, comme on ne peut ne pas l'avoir, mais on peut avoir une pandémie. Donc, dernièrement, notre attaquant est allé à l'OMS. Elle nous a vraiment donné des nouvelles fraîches. Elle est allée plusieurs jours, puis elle nous a rapporté avec un tableau, là, même des pays qu'on peut dire qui ont les moyens de faire un tel cas, ils ne l'ont pas encore. Puis ça, c'est récent qu'elle nous a donné ce résultat-là. Puis dernière chose, moi j'ai beaucoup aimé aussi l'aspect de, quand vous parliez de télécontrôle, mais au niveau des acteurs, au niveau de l'intuition, de la motivation, tout ça, je trouve vraiment intéressant. Je me demandais si, en tout cas, si vous avez le goût d'en parler, si vous avez regardé un petit peu au niveau des. C'est quand on parle d'intuition, motivation, objectif, pouvoir qu'on veut avoir, la place de l'outil de communication là-dedans, même d'éducation au sens large du terme. Comme par exemple, quelqu'un qui veut négocier, qui veut s'associer avec quelqu'un, il faut d'abord qu'il y ait l'information. Ou, moi, je ne connais pas vraiment le mot international, mais peut-être qu'à ce niveau-là, l'information, c'est en termes de communication, éducation.
Oui.
Qui permet aussi de gommer puis de faire des liens justement des acteurs. Tout à l'heure on parlait des micro-sociétés. Je pose la question, peut-être pas pertinemment.
Non, c'est bien, merci pour cette question, cet apport. C'est vrai que donc, je mentionne non pas seulement les hommes, mais aussi les animaux, les interactions, là oui, il y en existe tout à fait au niveau des problèmes de pandémie. C'est le cas de la maladie de la vache folle et de l'autre. Donc, oui, c'est important. Même chose pour les plantes. Alors la question peut-être que je prendrai dans votre propos, j'essaie de reformuler, ce serait la suivante. Quelle est la place de l'éducation, de la formation dans la problématique en fait, quelle est la place je suis d'accord qu'il faut accorder de l'importance. C'est même un rôle l'éducation, l'information, la sensibilisation donc aux problèmes environnementaux. Et en dernier instant, ce sont aux individus, donc tous les individus, de faire attention à leur comportement. Si chacun contribue à l'effort collectif, à ce moment-là, on aura des résultats. Mais c'est la même question qui se pose, par exemple, pour le vote. On peut penser qu'individuellement, bon, si on ne va pas voter, ça ne change rien, mais finalement, si tout le monde donne de la même manière, enfin, il n'y a que ceux qui sont décidés à voter qui font, et c'est comme ça que le vote est joué. C'est un problème. Donc, il y a une importance de l'action individuelle, et en amont de cette action individuelle-là, comment la guider, où il faut l'informer, finalement, et puis éduquer Mais à vous entendre aussi, je repensais au propos que j'ai tenu, je m'aperçois que j'ai beaucoup de formules où j'ai dit on doit, ou ce sont des impératifs que je mets. Évidemment, des coups de mon travail de thèse, je n'ai pas ratifié tout dispositif théorique, mais c'est, par exemple, chez Gautier, ça vient de des impératifs moraux, puisqu'il les met de côté, ça découle d'une exigence strictement instrumentale, de rationalité instrumentale. Donc, c'est par ce biais-là qu'on peut convaincre. Le problème, oui, au niveau en fait international, c'est comment finalement convaincre les États qui sont ce que Stanley Hoffman appelle des monstres froids. Les États, on pourrait ajouter aussi les ONG, les entreprises, les acteurs donc qui ne s'occupent que de leurs intérêts individuels, enfin leurs intérêts égoïstiques, de prendre place, de prendre part dans des accords plus généraux qui concernent tout le monde. Et donc, de faire des concessions, et donc comment les convaincre qu'il est dans leur intérêt donc de coopérer. C'est cette question qui me préoccupe et que j'essaie de me traiter dans ma thèse.
Malheureusement, le temps étant déjà une heure 30. Donc, merci beaucoup encore une fois de vous.